Bonjour à toutes et à tous. Paulo Pereira est né en Uruguay. Il a fait partie d'un groupe de rock argentin qui a connu un succès prodigieux dans les années 1970. Plus tard, il a décidé de s'établir en Europe, où il a continué sa carrière musicale dans plusieurs pays. Finalement, il a posé ses valises en Valais, travaillant plusieurs années dans les cuisines de l'hôpital de Sion. Polo a bien voulu répondre à cette interview qui a été réalisée au mois de juin 2022. La première question que je lui ai posée est la suivante: a-t-il commencé à faire de la musique après avoir pris des cours? Voici sa réponse.
Non, non, spontanément, tout d'oreille. Mon père jouait la guitare, alors je les copiais à lui, les tonalités, essayais de faire comme lui. La
D'abord la
guitare,
guitare sèche.
à la guitare sèche, oui.
Et à quel moment vous avez commencé à vous mettre à la guitare électrique, avec des amis pour un groupe ou...
Oh, c'était au moment que j'ai entendu pour la première fois à la radio des Beatles et Rolling Stones à l'époque. Alors ça m'a donné le courage, ça m'a donné l'envie surtout.
Ça a été le coup de foudre pour
Ah
ce
oui,
type de
ah
musique.
oui, ah oui, complètement, 100%.
À l'âge de 17 ans, vous avez quitté l'Uruguay pour le pays voisin, l'Argentine.
Oui.
Pour quelle raison?
Parce qu'on avait mon premier groupe musical qui s'appelait Los Mockers. On a eu un contrat pour enregistrer un vinyle à Buenos Aires. Alors c'était toute une aventure énorme pour nous tous.
Et comment s'est passé justement ce premier enregistrement, quel souvenir?
Bon, c'était toute une grande expérience pour nous. C'était en étant jeune surtout, c'était comme toucher pour un acteur les Hollywood. On était derrière le microphone et quand il disait 1, 2, 3, 4, il faut commencer. C'était une grande expérience, une grande expérience.
Le style rock surtout de ce
Rock,
groupe-là.
oui. Nous, on avait notre composition à nous, mais on jouait également, on était considérés les Rolling Stones sud-américains à l'époque, et on est même aujourd'hui.
Un petit peu plus tard, vous avez joué dans un autre groupe qui s'appelle Los Barbaros.
Oui.
Et là, vous avez connu un succès, on peut dire, gigantesque, en
Oui.
particulier pour un titre, une chanson qui était en fait un hommage aux Beatles, qui a été deuxième au hit-parade
Non,
sud-américain,
argentin.
argentin,
Oui.
et qui s'est vendu à 500 000 exemplaires, ce qui
Oui.
est énorme.
Un demi-million, oui.
Comment est-ce que vous avez vécu cette énorme popularité?
C'est une expérience que il n'y a pas de, je peux pas, y a pas de comparaison. Vous vous sentez bien et vous vous sentez surtout parce que vous faites ce que vous, dans votre esprit, il y a. Ça veut dire passer le message, c'est communiquer avec les gens à travers la musique. Et quand les gens, et surtout, ils reçoivent, ils chantent les chansons que vous chantez, c'est une satisfaction énorme.
Est-ce que les gens vous arrêtaient parfois dans la rue, vous demandaient des autographes?
Bien sûr, bien sûr. On habitait dans un hôtel à l'époque et dès qu'on finissait le samedi de jouer les mini-shows que je vous ai parlé avant, les dimanches c'était toujours aller boire un café avec, il y avait deux ou trois admiratrices de mes copains ou de moi, et il y avait toujours quelqu'un qui nous attendait. Bon, c'était agréable, c'était très très agréable.
Et puis vous avez fait une tournée aussi dans d'autres pays d'Amérique du Sud, j'imagine.
Oui, bien sûr. Paraguay, on a visité le Brésil, on a visité presque tous les pays sud-américains. On prenait les bus pour aller faire une tournée de Buenos Aires à Neuquén, par exemple, et c'est à 1 000, 1 100 km. Alors, et on faisait entre les jeudis, on arrivait après, on faisait le retour les mardis de l'autre semaine qu'on avait fini de jouer, les week-ends, vendredi, samedi.
Et on imagine aussi beaucoup d'émissions de radio, de
Oui,
télévision.
toujours, toujours, toujours. Radio, télévision. Bon. J'ai commencé de tout petit à faire la radio. Hein. À l'époque, je devais me monter sur une chaise pour arriver, parce que le microphone, il était tout en haut, pour arriver à chanter à l'époque, pour les donner des satisfactions à ma mère, un répertoire mexicain ou espagnol.
On passe maintenant quelques années plus tard, à l'âge de
Oui.
31 ans,
Oui.
vous avez quitté l'Amérique du Sud pour venir en Europe.
Oui.
Pour quelle raison?
parce que j'avais envie de faire, d'échanger un peu. Et il n'y avait pas grand-chose à faire déjà en Argentine. Je crois que c'était la meilleure solution, la meilleure décision que j'ai prise. Et on est arrivé en Europe et c'était tout complètement différent.
Une question que j'aimerais vous poser. Vos amis, votre famille, quand ils ont appris que vous alliez partir
Oui.
en Europe, est-ce qu'ils ont eu des réactions? Est-ce qu'ils étaient très étonnés? Est-ce qu'ils avaient peut-être peur pour vous?
Ah oui, c'était triste. Logiquement, ils ne voulaient pas que je quitte l'Argentine, surtout, où il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. Oui, bien sûr, non, ils n'étaient pas complètement d'accord dès que je quitte l'Argentine. Mais...
Votre famille a carrément essayé de vous retenir ou pas vraiment?
Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Ils m'ont dit, si j'avais bien réfléchi à prendre une décision comme ça, et j'avais dit oui, c'est décidé.
Mais au fond de vous, justement, est-ce qu'il y a une part de vous qui vous disait, mais quand même, pourquoi est-ce que je pars alors que j'ai tellement de bons souvenirs et puis j'ai eu quand même beaucoup de succès avec ces groupes? Est-ce qu'il y a eu quand même un doute au fond de vous?
Non. Non, non. J'avais vraiment envie de faire autre chose.
Vraiment, le but, c'était de
J'avais
connaître
envie d'échanger,
un autre monde, un autre.
oui. Surtout d'échanger un peu de style de vie, pour dire. Et c'était ce qui s'est passé après, en
Ça veut dire
arrivant à...
que vous vouliez avoir un style de vie un peu plus calme, disons, qu'un petit peu plus. Ou.
Calme, non, je dirais pas. Parce qu'au contraire, en Europe, on travaillait beaucoup plus. Tandis qu'en Argentine, on était des artistes qui ont travaillé que le vendredi, les week-ends, pour dire. Mais ici, en Europe, c'était quand je suis arrivé, tant en Italie où j'étais après, c'était tous les jours. Il y avait juste un jour de congé dans la semaine, et après, c'était tous les jours à chanter, tous les jours.
On va juste peut-être revenir en arrière. Quels ont été vos tout premiers souvenirs des premiers jours en Italie?
En Italie, c'était un peu comme tomber dans l'Argentine, si je peux dire. Même que la langue, c'est autre chose, mais ça ressemble beaucoup. Et c'est justement la mentalité italienne, la façon de prendre les choses, la vie même. C'était, non, je ne me sentais pas
Dépaysé, on dira.
trop dépaysé, pour dire.
Et puis vous étiez dans quelle ville au départ?
J'étais à la région de Toscane, à Montecatini Terme, à Marina di Pisa.
Des maisons
Je ne
continues,
voyais pas des espaces,
des grands espaces.
des grands espaces, je ne voyais pas. C'était que des maisons, que des maisons, que des maisons, que des maisons. Ça m'a fait un peu. Même qu'à Buenos Aires, c'est une grande ville, il y a des millions et des millions de personnes, hein. C'est une grande ville, Buenos Aires. Mais. Il y a aussi des endroits à Buenos Aires où c'est en contact avec la nature. Pour moi, c'était très important et j'ai remarqué justement.
Polo, vous êtes resté au total environ 3 mois en Italie.
Oui.
Après, vous avez été habité en Allemagne. Combien de temps en Allemagne?
7 ans.
7 ans. Et du point de vue musical, ça s'est assez bien passé en Allemagne. Vous avez
Très, très
joué.
bien, très bien. Mais bon, c'était dur. C'était beaucoup plus dur de ce que j'ai pensé.
À quel point de vue?
Au point qu'on commençait à jouer vers 7 h du
À ce moment.
soir et on faisait 3 quarts d'heure pour 15 minutes de repos jusqu'à 3 h du matin. C'est énorme. J'ai perdu pas mal de voix, justement.
5 jours par semaine ou
6 jours par
six jours
semaine.
par semaine.
Oui, à l'époque, on n'avait qu'un jour de congé.
Ou parfois vous étiez quand même très fatigué.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et parfois, on avait un peu marre de jouer certains morceaux parce que parfois on devait les jouer 2 ou 3 fois dans la même soirée.
Est-ce que le public allemand est un peu plus froid? Est-ce qu'on penserait que le
Non,
public est plus
non,
froid?
non, non, génial, génial, génial.
Presque plus chaleureux qu'en Italie ou.
Plus chaleureux qu'en Italie, plus chaleureux qu'en Suisse aussi, hein.
Ah, d'accord.
Ah oui. Ils sont en Allemagne, il fait. Vite fait.
Ensuite, vous avez habité en Suisse.
Oui.
Pourquoi avoir quitté l'Allemagne?
Parce qu'à un moment donné, ça commençait à décliner les systèmes de jouer un mois ou 15 jours au même endroit. En même temps, il y avait un problème de paiement pour les groupes. Les groupes, avant, on était à 5. C'est rare qu'on était à 4. On était à 5 en général. Et après, ça a commencé à 3, à trio. Et après, ils ont commencé parce qu'il n'y avait pas assez pour payer les...
Il y avait moins de revenus, en gros. Hein.
Moins de revenus en général, partout, partout. Alors, je me suis dit, non, c'est le moment de changer ou voir autre chose. Et là, je me suis dit, bon, j'avais un collègue ici, en Suisse.
Musicien.
Musicien aussi, mais il avait été musicien à une époque que j'ai joué avec lui en Argentine. Mm-hmm. Alors, il m'a dit, tu veux venir ici, mais bon, il va falloir que tu fasses aussi peut-être autre chose, que tu travailles, tu te cherches un travail, quoi que ce soit pour arriver à tenir tranquille.
Alors justement là, à l'âge de 41 ans, je
41
crois que vous
ans,
avez
oui.
commencé à travailler à l'hôpital de Sion.
À l'hôpital de Sion, oui, par M. Michlig, à l'époque à la commune, qui m'a dit, alors il m'a dit, bon, si vous voulez rester ici, il faut faire un petit effort de votre côté. Il y a une place à l'hôpital pour la ville de Casserolles, à la cuisine. Et j'ai dit oui, je suis d'accord, je reste ici.
Puis est-ce que pour vous, ça a été difficile, après toutes ces années en tant que musicien, de changer complètement de métier?
Oui, c'est difficile, oui. C'est difficile, oui, puis c'est complètement différent. Ouais. Les horaires sont complètement différents, c'est les horaires normaux de n'importe quelle personne qui travaille, qui fait un travail normal.
Qui vous apprennent quand même quelques mois. Après quelques mois, c'était déjà plus facile, ou après un an, c'était quand même...
Non, je me suis adapté vite fait, oui.
Polo, la musique, c'est vraiment la passion de votre vie, on peut dire. C'est
oui.
pourquoi on va reparler musique. Parce que à l'âge de 59 ans, vous avez retrouvé les membres de votre premier groupe, Los Mockers. Mmh. Dans quelles circonstances? Comment vous avez fait pour les retrouver?
Par Internet. Ma femme, elle m'a aidé beaucoup. Il m'a dit, ici, tu peux taper ici. Il m'a montré comment ça se passait. J'avais aucune idée. Et c'est là qu'on s'est branché avec mon copain qui était et qui habite aujourd'hui même à Valencia, en Espagne. Le pianiste.
Et comment est-ce qu'il a réagi quand vous l'avez contacté après des années?
Il ne croyait pas parce qu'il me croyait mort.
Ah.
Il me croyait même mort parce qu'il avait entendu des airs que j'avais été à Hambourg, en Deutschland, en Allemagne. Et qu'après, il m'avait perdu complètement la piste, qu'il ne savait plus rien de moi. Alors, il a pensé que peut-être je n'étais plus là. Ah. Alors, il était, oui, bien sûr qu'il était surpris. Il m'a dit, écoute, alors, un mois après, il m'a dit, j'ai une grande idée parce que c'est un copain, il est quelqu'un de spécial. C'est un très bon musicien. Ses parents, ils sont partis d'ici, de l'Europe allemande. De l'Allemagne, justement, parce qu'ils étaient des juifs. C'est l'ambassadeur uruguayen qui les avait sauvés pour rentrer en Uruguay à l'époque. Mmh. Et lui, il était très doué dans sa vie. Et là, c'était un type très, très doué, Esteban. Alors, il m'a dit, écoute, je pense de m'organiser pour essayer de faire un concert après 40 ans avec Los Mockers. Le problème, c'est que toi, tu habites en Suisse, moi, j'habite en Espagne. Le guitariste, l'autre guitariste, il habite à Buenos Aires. Uh-huh. Et le bassiste, Julio, il habitait à Lanzarote, aux îles Canaries. Uh-huh. Alors, on a pu faire des enregistrements et des répétitions, pour dire, par Skype. C'était la seule façon, mais bon, qu'il allait... À l'époque, j'étais plus jeune, il n'y avait pas, ça n'existait pas.
Et vous avez fait un concert en Amérique du Sud?
À Montevideo, le 26 septembre 2008.
Comment ça s'est passé, ce concert? Quel souvenir?
Oh, incroyable, c'est difficile à expliquer. Bon, on était même obligés de jouer le morceau qu'on jouait pour faire danser les gens. Donc, des morceaux de Rolling Stones à l'époque, comme les Spend the Night Together ou Satisfaction. Et après, bon, logiquement, tout le monde chantait les chansons à nous, de notre seul vinyle qu'on avait enregistré à l'époque.
Et c'était un concert en salle ou à l'extérieur?
Dans une grande salle au centre de Montevideo, oui.
Je vais vous poser maintenant quelques questions générales sur votre vie de musicien. Beaucoup de gens pensent qu'il y avait beaucoup de drogues qui circulaient à l'époque dans les groupes de rock. Est-ce que c'était le cas?
Oui, c'est vrai.
Est-ce que pour vous c'était un problème parfois?
Ça m'a jamais intéressé.
Et puis, est-ce que d'autres joueurs étaient moins en forme à certains moments?
Exactement, oui. On avait préparé une fois avec un trio à Buenos Aires, une sortie dans un concert qui s'est fait tous les années. Mm-hmm. On avait préparé une petite opéra. La durée, c'était de trois quarts d'heure, à peu près. Et malheureusement, tant les batteurs que les bassistes, ils s'étaient drogués. Alors, tout ce qu'on avait travaillé pendant presque une année et quelques, tout pour rien du tout.
Vous n'étiez pas bon, quoi. Parce que
Non. Je me sentais très mal. Très mal. C'était la seule fois de ma vie que j'ai eu une expérience comme ça.
Ouais. Le public a certainement remarqué aussi qu'il y a quelque chose qui ne
oui,
jouait pas,
sûrement,
sans
oui,
doute.
Sûrement. Parce qu'en plus, bon, c'était des compositions à nous, mais... Il n'y avait pas le feeling qu'on appelle, il n'y avait pas l'esprit pour... Ils étaient dans un autre monde.
Quel serait au contraire votre meilleur souvenir de concert? Celui vraiment qui vous laisse le souvenir le plus fort?
C'était à Buenos Aires avec Los Bárbaros. À un moment donné, je ne m'entendais plus. Moi, je jouais la basse avec ces groupes-là. Je m'entendais même pas la basse, qui en général c'est un son grave, profond, parce que tout le monde chantait la chanson. Ah. Alors on n'avait même pas besoin de jouer ou de chanter, ils chantaient tous. Mais ça c'était inoubliable.
C'est très émouvant.
Très émouvant, oui.
Polo, vous avez trois filles qui n'habitent pas en Suisse, deux mm-hmm. sont en Amérique du Sud.
De mon premier mariage, oui.
Voilà, une de vos filles habite le Pays Basque.
Oui.
Est-ce que pour vous, cette distance est quand même difficile? Est-ce que vous dites parfois, j'aimerais les voir plus souvent, parce qu'il y a quand même un certain nombre
de... Bien sûr que ça me reste toujours l'envie de les voir plus souvent, même mes filles qui sont en Argentine, à Buenos Aires. Mais bon, les moyens de communication et les moyens qu'on a aujourd'hui sont suffisamment... rempli pour un être humain, et on se parle souvent, on est comme en famille, pour dire, même si on est loin l'un de l'autre.
Tout autre chose, vous êtes aujourd'hui retraité, mais je suppose que vous faites encore un petit peu de musique.
Toujours, jusqu'à ma mort, oui.
Donc
c'est ma passion.
Vous continuez même à composer.
Exactement, oui, de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai vécu, je pense que c'est les messages à laisser, c'est la dernière chose qu'on laisse.
Polo, il me reste à vous remercier mille fois pour cette interview et vous
moi
souhaiter
aussi.
Le meilleur pour le futur.
Merci beaucoup.
Merci.
Très content, merci.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.